Législative 2022, première circonscription des Landes. Premier tour le 12 juin prochain. Les candidats, les enjeux, c'est sur Radio MDM.
11 candidats, dont bon nombre de nouveaux noms ou de novices, parmi lesquels celui de l'insoumis Guy de Barbeyrac, habitant à Campagne, issu du monde associatif, passé par le membre, en tout cas du collectif des associations de défense de l'environnement du Pays Basque et du sud des Landes, hein, le CADE, et de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, autrement dit ATTAC. À 68 ans, cet ancien agent de direction à la CAF et à l'URSSAF a donc été investi par la NUPES ou la NUP. On ne sait pas trop encore comment il faut le prononcer. Il faut dire que le nom en représentant la coalition de gauche dans laquelle on retrouve la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste est encore tout frais, officialisé quelques semaines à peine après que Jean-Luc Mélenchon ait raté à quelques 421 000 voix. Après, une qualification pour le second tour de la présidentielle, une union quasi dans l'urgence électorale, et un programme tracé dans lequel on retrouve 650 propositions communes, dont je cite 33 mesures en nuances, comprenez, sujettes à des désaccords fondamentaux qui vont de la question du nucléaire à celle de l'OTAN jusqu'à des thématiques plus locales comme la chasse ou encore la corrida. Se pose sur ces deux sujets la position du candidat de Barbeyrac en ouverture de cet entretien.
Je ne vous dirai pas si je suis pour ou contre la chasse, ni si je suis pour ou contre la corrida, ni si je ne vous dirai pas non plus si je suis allé à la manifestation des chasseurs, dont tout le monde d'ailleurs a dit « Oh là là, moi j'y suis allé, oui, oui ». Non, non, mais moi je ne vous le dirai pas. Par contre, député, le sujet de la chasse, de la corrida, il est en débat, il va être porté au niveau national, et moi j'amènerai, si je suis député, ma connaissance, mon expérience landaise de ces sujets-là, que je connais localement. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si je suis moi personnellement pour ou contre, c'est que je puisse amener le débat, et tous les avis sont respectables. Celui des chasseurs, mais également celui des non-chasseurs, qui sont au moins aussi nombreux dans les Landes, tout comme j'amènerai ma connaissance du dossier sur la forêt, par exemple. La forêt landaise, ce n'est pas tout à fait le même cas de figure que la forêt dans le Morvan, où on coupe des feuillus pour mettre du pain de glace, ce qui est pour moi quand même un peu une hérésie. Bon, les spécificités de la forêt landaise, elle est bien cernée, bien connue. Moi, je la connais bien. Donc, sur le débat de la forêt, je pourrais amener mon regard et mon expertise partagée, parce que je vais aller chercher l'expertise nombreuse des gens du terrain. L'autre jour, j'étais à Luxeuil, on parlait avec les maires de la communauté de communes du Cœur de Landes. On a parlé des déserts médicaux, on a parlé des difficultés d'éloignement des communes, etc. On a parlé aussi du bien-vivre, enfin de la qualité de vie que les gens viennent chercher dans ces secteurs de la Haute-Lande, mais aussi des besoins pour que justement une population vieillissante puisse trouver des services ou des solutions de logement, par exemple, adaptées à leur vieillissement et aux difficultés qui vont avec.
Vous soutiendrez, si vous êtes député, on imagine la proposition de Jean-Luc Mélenchon, donc de hisser le SMIC à 1500 euros par mois. La question qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui gagnent déjà 1500 euros par mois? Ça veut dire qu'on augmente tout le monde. Si en plus on met la retraite à 60 ans, enfin, on sait qu'évidemment on va trouver tous ces deniers. Est-ce que, pardonnez-moi, mais c'est un peu brutal, mais est-ce que vous ne nous vendez pas un peu du rêve?
On ne vend pas du rêve. Alors, le SMIC, c'était un des éléments du débat, bien sûr, mais ce qu'on veut, effectivement, c'est augmenter le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre des gens. Donc le SMIC, effectivement, à 1500 euros, c'est une mesure qu'on peut prendre par décret. C'est la seule mesure directe, d'ailleurs, que l'État peut prendre au niveau des salaires. Par ailleurs, on envisage de remonter au niveau du seuil de pauvreté, qui est à 1063 euros, les revenus des gens qui ont, par exemple, le RSA ou des minima sociaux. Pour les jeunes qui sont en formation également, étudiants, mais également ceux qui sont dans l'apprentissage professionnel, on veut aussi leur donner une allocation d'autonomie pour qu'ils puissent étudier dans des bonnes conditions, sans avoir à courir, à galérer pour trouver des petits boulots pour vivre, hein, tout simplement. Alors c'est vrai, le SMIC remonté, on va dire, et les autres alors. Alors les autres, on va provoquer l'ouverture de négociations salariales dans toutes les branches. Ça s'est déjà fait par le passé, hein, on n'invente pas la poudre. Hein. Provoquer, l'État peut avoir un rôle d'impulsion, pour que justement on renégocie à la hausse toute la hiérarchie des salaires. Après, l'État peut avoir aussi un rôle d'incitateur, parce que l'État passe beaucoup de commandes quand même, donc il peut aussi flécher ses commandes plus facilement vers des secteurs qui jouent le jeu que sur d'autres, par exemple. Voilà, il y a des outils, il y a des outils au niveau de l'État pour inciter à négocier.
Mais alors, Jean-Luc Mélenchon, je caricature hein, volontairement, voilà, c'est prendre l'argent où il est et l'amener à ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui paye l'ISF dans les Landes, il a envie de rester dans notre beau département, mais il va être peut-être tenté d'aller voir ailleurs, dans un autre pays, une autre langue.
Bon, d'abord, est-ce qu'une société où les écarts de richesse se creusent est une société souhaitable et tenable aussi ? Je n'en suis pas sûr. On a eu des explosions sociales de mécontentement dans un passé récent. Ça pourrait aussi... Si les amortisseurs sociaux qui existaient en France, qui existent encore en France, qu'on a su mettre en place à certains moments, notamment des moments difficiles, dans l'après-guerre, que sont par exemple la sécurité sociale, si ces amortisseurs sociaux sont cassés, diminués, mais surtout cassés méthodiquement les uns après les autres, je pense à l'assurance chômage, hein, 20% des gens qui ont l'indemnité chômage ont vu leur niveau baisser, et certains très très sérieusement, avec la réforme portée par Madame Borne, actuelle Première ministre. Donc, si on ne maintient pas correctement des amortisseurs sociaux, on va vers des grandes difficultés. Donc, nous, on est effectivement pour aider les plus fragiles, les plus pauvres. L'argent, il y est en France. Quand on dit que 5 personnes ont autant de richesses en France que 27 millions d'autres, voilà quoi. Il y a des tas d'exonérations fiscales et sociales qui ont été mises en place. En remettant tout ça en cause, intelligemment, certes, mais systématiquement, on retrouve les milliards qui nous serviront à payer mieux les gens, à remonter le niveau de vie des gens. On a quand même en France 10 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté. Plus 400 000 sous le quinquennat Macron, hein, donc le bilan il n'est pas terrible. On a 12 millions de gens qui sont en précarité énergétique. 785 000 coupures d'électricité ou réduction d'électricité l'an dernier, un record. Il y a de l'argent, il y a des besoins. Nous, on part aussi du principe qu'il y a des difficultés accrues. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre plan d'urgence, on va commencer par le blocage des prix. On peut le faire parce que voilà, l'inflation part sans flamme. Il y a des pays voisins, ça y est, qui l'ont déjà fait. L'Espagne, le Portugal, ils bloquent les prix. Donc ça veut dire que si le vendeur d'énergie, je pense à Total par exemple, qui a distribué des bénéfices records, si le vendeur d'énergie, on lui dit ben, ton baril d'essence que tu produis, ben, on ne te l'achètera pas plus cher que tel montant. Il aura besoin de fonctionner, il va s'aligner. Macron, président de l'Europe, aurait pu faire ce travail-là. Il ne l'a pas fait. On va le faire au niveau français.
Si Jean-Luc Mélenchon est élu, est-ce que vous êtes bien conscient que c'est la dernière chance pour ne pas que justement ne profite d'un potentiel chaos les droites souverainistes pour s'engouffrer là-dedans dans 5 ans? On a déjà discuté où vous disiez que votre adversaire sur ce tour par exemple était Geneviève Darrieussecq, donc la Macronie. Quid du Rassemblement National, d'Éric Zemmour, 33%, on le rappelle, d'électeurs en leur faveur?
Écoutez,
présidentiel.
Qui sont ces électeurs? Si ce sont des gens qui sont...
Vous leur dites...
Alors, si vous êtes électeur Macron-Zemmour, que vous êtes électeur parce que vous avez des difficultés pour boucler votre fin de mois, parce que votre loyer augmente, etc. On a des réponses cohérentes, chiffrées, complètes et immédiates pour certaines.
Mais il va falloir que ça aille vite et vous allez devoir débattre. Il y a 33 nuances.
Il y a déjà des mesures qu'on pourra prendre immédiatement. Quand je parle de blocage des prix, le blocage des loyers par exemple aussi, c'est une mesure, ça ne coûte rien à l'État, mais on peut le décider, il faut le décider. Le déblocage du point d'indice des fonctionnaires, qui est bloqué depuis des années, ça aussi, c'est une mesure qu'on peut décider immédiatement. Remonter le SMIC, on peut le faire immédiatement, c'est un simple décret. Donc si c'est ça qui provoque ce vote d'extrême droite, nous on a des réponses. Alors bon, c'est vrai que dans l'immédiat, pour nous, notre adversaire, oui, c'est Macron, et puis derrière localement, c'est Madame Darrieussecq, puisque Madame Darrieussecq, c'est la ministre de M. Macron, et elle défend le bilan de M. Macron. 5 ans de macronisme, on sait ce que ça a provoqué. Okay.
Parmi vos adversaires aussi, il y en a un qui n'était pas prévu, au sein même de la gauche. Est-ce qu'on peut avoir une explication à, on pourrait dire, un petit peu ubuesque quand même, avec un candidat qui vous soutient dans les deux autres circonscriptions?
Écoutez, on a un candidat qui dit « moi je soutiens la NUPES, je suis dans la... » Non, ils ne sont pas dans la NUPES, ils n'étaient pas dans la négociation. La NUPES, on sait qui a négocié, qui s'est associé, Parti communiste, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Génération. Et on a à côté d'ailleurs Nouvelle Donne qui n'est pas dans cet accord, mais qui ne présentera pas de candidat et qui nous soutient. Donc dans cet accord, il y a un candidat porté par la NUPES. Donc cette liste à côté, elle peut raconter, elle parle d'union. Bon, voilà, l'union elle est chez nous, elle n'est pas chez eux en fait, à gauche. Soyons sérieux. Et toute liste à côté, en fait, fait le jeu de la Macronie, il faut en avoir conscience. Après, pourquoi ? Écoutez, moi j'ai une explication très simple, c'est suivez l'argent, cherchez l'argent. On sait que si on dépose dans un mouvement quelconque des candidats et qu'on a 50 candidats qui font plus de 1% de résultats, ils auront droit à du financement de partis politiques. C'est les règles existantes. Je crois que la logique, elle est là, il ne faut pas aller chercher plus loin. Ils ont le droit, ils le font. Par contre, s'abriter derrière un grand affichage politique sur les idées, bon, ça, c'est pas très sérieux. Objectivement, c'est pas très sérieux.
Guy de Barbeyrac, candidat pour la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, dans la première circonscription des Landes. Il tiendra une réunion publique de fin de campagne, sachez-le, le vendredi 10 juin prochain, salle du Temps Libre à Saint-Pierre-du-Mont, à partir de 19h.
MDM, tout un monde.